Salut à tous, c'est Woody, on est le 25 septembre 1989 et vous écoutez CapsulePod. C'est la rentrée et vous avez du mal à sortir du lit pour reprendre votre train-train quotidien ? Respirez un bon coup et reprenez un peu de bonne humeur, ce mois-ci vous ne manquerez pas de distraction. Aujourd'hui dans CapsulePod, un peu de sport de plage pour retrouver le soleil, une aventure au travers du temps, une chauve-souris dans les salles obscures, une salle obscure comme les fonds marins, les tubes de la rentrée, dessins à Los Angeles, encore plus de véhicules transformables, et enfin, un pays où il y a des méchants et des gentils. Vous êtes prêts à vous laisser porter par le programme ? C'est parti !
Vous ne connaîtriez pas un bon psychologue ?
Hé, hey, dites-leur, Atari !
Et on commence tout de suite par un jeu Amiga qui ramène du sable dans vos valises et qui sent encore bon la crème solaire, le sobrement nommé Beach Volley. Développé par Ocean Software, c'est en vérité le premier jeu de la gamme Adidas qui se verra suivi ce mois-ci par un jeu de football appelé Adidas Golden Shoe. On connaît surtout Ocean Software pour avoir édité des jeux tels que Whizball en 87. Il donne néanmoins aussi dans le développement, comme ce fut le cas pour l'adaptation du film d'Oliver Stone, Platoon, la même année. Dernièrement, on les a retrouvés en association à Data East et à Special FX Software pour le très bon Batman de Cape Crusader, mais on aura l'occasion de parler du Justicier Nocturne tout à l'heure. L'histoire nous est racontée par une bande dessinée dynamique d'une qualité étonnante en intro du jeu. Alors que deux jeunes jouent au beach volley, un étranger arrive dans une voiture de sport. C'est un représentant de la marque Adidas qui leur propose un contrat pour parcourir le monde et participer à un grand tournoi de beach volley et au passage gagner un paquet de pognon. Ils seront alors amenés à vaincre les équipes adverses dans divers pays, à commencer par l'Angleterre, puis les États-Unis, en passant par la Chine pour devenir les grands champions. Les règles sont simples, c'est du volley en 2 contre 2 et la première équipe à atteindre 7 points gagne la partie. Les matchs durent 6 minutes, et alors qu'à la dernière la musique s'accélère pour faire monter la pression, il vous faudra vous presser de marquer les points restants. Car malheureusement, si aucune des deux équipes n'a atteint les 7 points à la fin du temps imparti, vous avez automatiquement perdu, que vous soyez en avance ou non. Vous avez bien sûr la possibilité de jouer contre un ami, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. En solo, les matchs ne gagnent pas en difficulté d'un match à l'autre. Contre un autre joueur, vous pourrez déjà commencer à travailler des techniques et vous laisser surprendre. Le jeu a été très bien reçu de la critique. On le décrit comme très addictif malgré sa simplicité. Ce qui ressort le plus, c'est la qualité des sprites. Gen4 en parle simplement comme du jeu de sport le plus beau que ce soit sur Amiga ou Atari, avec de nombreuses animations bourrées d'humour et un scrolling multidirectionnel époustouflant. La prise en main est immédiate avec un bouton qui sert à toutes les actions, que ce soit le saut, le tir, la passe ou le contre. On peut également varier les services et les smash pour surprendre son adversaire. En ce qui concerne les décors, les terrains ont beau être variés, ils n'ont malheureusement aucune spécificité qui impacte la partie. Enfin la musique, chargée de soleil et très entraînante, est composée par Jean Baudelot, un nom que l'on a déjà évoqué pour l'adaptation Atari de Bad Dudes vs Dragon Ninja. Un compositeur qui, après avoir bossé pour Richard Clayderman, rappelons-le, envahit vos micros cette année, on en reparle dans un instant. We'll be right back. Et on enchaîne sur une production franco-française, Les Voyageurs du Temps, la menace. Prévu pour ce mois-ci sur Amiga et Atari ST, c'est le premier épisode d'une série de jeux d'aventure point and click, un genre que l'on a abordé récemment avec Indiana Jones. Il est édité et développé par Delphine Software, un studio parisien à l'origine de jeux comme Bio Challenge ou Castle Warrior cette année. Il a eu droit à son dossier complet dans la plupart des magazines spécialisés et ce n'est pas pour rien. Les Voyageurs du Temps n'a pas à rougir de la qualité des jeux Lucasfilm Games, à part qu'il est réalisé avec nos moyens de Gaulois, du coup, y a de quoi être fier. Le scénario paraît un tantinet loufoque à première vue. Vous jouez un laveur de carreaux qui découvrira une machine à remonter le temps dissimulée dans le bureau de son chef, il traversera le Moyen-Âge, le futur et la préhistoire, pour se rendre compte qu'il joue un rôle décisif pour le destin de l'espèce humaine. Les Voyageurs du Temps proposent un standard de jeu d'aventure point and click diablement efficace. Vous déplacez votre personnage à la souris et vous pouvez interagir avec votre environnement au travers d'un menu contextuel qui vous propose un certain nombre d'actions, comme utiliser un objet ou l'examiner. Le but étant de résoudre des énigmes ou d'enchaîner la bonne série d'actions pour passer au tableau suivant, parfois dans un temps imparti. La critique est unanime sur le jeu. Ses graphismes, qualifiés de superbes, sont l'œuvre d'un petit jeune plein d'avenir du nom de Eric Chahi. Ce graphiste bourré de talent donne ainsi vie à un univers décrit par Delphine Software comme cinématique, comme peut en témoigner l'introduction du jeu montrant l'atterrissage d'un énorme vaisseau spatial dans une clairière. Chez Tilt, on trouve le jeu irréprochable, une remarquable réussite à 18 sur 20 d'intérêt. Gen 4 dit sobrement que c'est un jeu d'aventure comme on en rêve depuis des années. Un jeu parfait qu'on ne manque pas de hisser au rang des productions Sierra. On notera tout de même la possibilité de se bloquer bêtement en cours de partie, le jeu ne permet pas de revenir en arrière, il vous sera donc impossible de le continuer si vous avez oublié de récupérer des objets clés lors de votre progression. Fait amusant, un moniteur couleur vous sera nécessaire pour démarrer une partie, mais il ne s'agit pas d'une limitation du jeu en soi. Il vous faudra en effet disposer du manuel pour reporter le code couleur imprimé au dos, pour passer la protection anti-copie au lancement. Une astuce trouvée par l'éditeur pour limiter un maximum le piratage. Enfin, en ce qui concerne la musique, on a là une bande-son digne d'une bande originale de film, composée par le même artiste que l'on vient d'écouter, c'est-à-dire Jean Baudelot. Il n'aura quand même pas manqué de boulot cette année.
Mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly.
C'est Gary Cooper, connard.
Assez plaisanté.
Je vous avais planqué un indice dans l'épisode de juillet, on peut enfin en parler. Le Batman de Tim Burton sort en salle chez nous ce mois-ci. Le Chevalier Noir, incarné par Michael Keaton, sera opposé au Joker de Jack Nicholson, dans un combat pour sauver Gotham City des tentatives du clown psychopathe pour semer le chaos et faire littéralement mourir de rire ses habitants. On reviendra sur les origines du justicier, l'événement tragique qui transformera Bruce Wayne à tout jamais, le meurtre de ses parents dans une ruelle par un malfrat. Vous connaissez l'histoire, il utilisera la fortune de son héritage pour combattre le crime avec des gadgets sophistiqués. Mais on donnera une origine au Joker également. Alors que Batman poursuit des bandits dans une usine chimique, il provoquera la chute de Jack Napier dans une cuve d'acide. Ce dernier, complètement défiguré d'un rictus inquiétant et permanent, n'aura plus qu'à arborer une panoplie et un maquillage de clown pour devenir le célèbre antagoniste du justicier masqué. Tim Burton s'est fait une petite renommée l'année dernière après la sortie du film Beetlejuice qui mettait déjà à l'honneur Michael Keaton dans le rôle principal. Réalisé quelques années après un autre grand succès du nom de Pee-wee's Big Adventure, il nous confirme une réalisation macabre, un style assez personnel et théâtral que l'on ne manque pas de retrouver dans le Batman. Burton n'était pourtant pas spécialement intéressé par l'œuvre originale au départ, ni même par la bande dessinée d'une manière générale. Il se laissera tout de même convaincre après avoir lu des titres comme Dark Knight ou le formidable The Killing Joke, qui présente un contenu bien plus sombre et sérieux, plus adapté à sa sensibilité cinématographique. On retrouvera Kim Basinger dans le rôle du love interest de Bruce Wayne, un personnage du nom de Vicki Vale. L'actrice ne manquera pas d'occuper les salles obscures dans les années à venir, suite à son grand succès dans 9 semaines et demie il y a quelques années. Jack Nicholson, quant à lui, était une valeur sûre pour le Joker après son incroyable rôle de Jack Torrance dans Shining de 1980. Cela dit, il n'était pas le premier choix de Tim Burton pour ce rôle. Il a envisagé Tim Curry, Willem Dafoe ou même David Bowie, et ses premiers choix se tournaient vers Ray Liotta et Brad Dourif. Le rôle avait même été proposé à Robin Williams lorsque Nicholson hésitait à signer. L'acteur de Good Morning Vietnam a même accepté le rôle, ce qui aurait motivé Nicholson à se décider à la dernière minute. Batman est un film qui fait déjà un carton monumental. Sorti il y a quelques mois aux États-Unis, il s'agit déjà d'un des plus grands succès au box-office d'Hollywood, et le cinquième film le plus rentable de tous les temps. Un succès que l'on doit en partie à la bande-son d'un certain Danny Elfman, un compositeur qui en est déjà à sa troisième bande originale pour le réalisateur américain. Mais un autre musicien était sur le coup pour la bande-son du film, une superstar du nom de Prince. Contrairement à Burton, ce dernier est un fan inconditionnel du justicier. Le compositeur de Purple Rain aux 10 albums demande, alors qu'il visite les plateaux de tournage, à composer sa bande-son, mais Elfman est déjà sur le coup. Qu'à cela ne tienne, il composera un album secondaire appelé Batman Motion Picture Soundtrack, infusé de son style pop-funk et loufoque. Un genre représenté à la perfection par le titre Bat Dance, qui fait déjà un carton au top 50 chez nous depuis quelques mois. Écoutez plutôt.
Oh, I got a live one here.
Out there right now.
I just like the sound of it.
In the computer.
James Cameron est de retour ce mois-ci avec un huis clos sous-marin oppressant, Abyss. Le réalisateur américain que l'on connaît surtout pour Terminator en 84 et Aliens le retour en 86, nous présente là une histoire angoissante dans une station de forage enfouie dans les fonds marins appelée Deep Core. C'est là où débarquera une équipe de sauvetage venue au secours d'un sous-marin américain échoué au large des Caraïbes. C'est alors que Bud, incarné par Ed Harris, Lindsay, incarné par Marie-Elisabeth Mastrantonio et leur équipage feront face à des événements étranges. Ils seront amenés à découvrir ce qui se cache dans les abysses, une forme de vie inconnue à l'aspect liquide. On connaît encore peu Ed Harris, mais il commence à se faire un nom à Hollywood. Quant à Marie-Elisabeth Mastrantonio, elle a marqué la décennie avec son rôle dans Scarface en 83 sous les traits de Gina, la sœur de Tony Montana. Elle sera quelques années plus tard nominée pour un Golden Globe et aux Oscars pour son rôle dans La couleur de l'argent. Abyss est un projet extrêmement ambitieux de la part de James Cameron, qui avoue chercher à réaliser le 2001 l'Odyssée de l'espace des films sous-marins. Pour ce faire, il a eu recours à des techniques de tournage extravagantes et extrêmes. Presque la moitié du film a été tournée dans un plateau immergé à 13 mètres de profondeur, sous 28 millions de litres d'eau. La production avait racheté une centrale nucléaire désaffectée pour ce projet titanesque. Il a fallu de nombreuses heures d'entraînement aux comédiens et techniciens pour les préparer aux longs mois de tournage dans ces conditions extrêmes, allant de 10 à 15 heures de plongée par jour dans une cuve où toute lumière extérieure était occultée par une bâche isolante recouvrant le sommet du réservoir. Le tournage a été un véritable calvaire. À la fatigue physique due aux conditions de tournage, il fallait ajouter les désagréments causés par des produits chimiques assainissants pour l'eau, qui décoloraient les cheveux et occasionnaient des brûlures. Et malgré tout ça, le film n'a pas eu un excellent succès critique. Le New York Times trouve le rythme trop lent, selon leurs termes et pour les citer, on a droit à au moins 4 fins, et avant même d'être arrivé au bout des 2h15 de film, le roller coaster nous a lâché en route et continue sa course en roue libre. On rajoute à ça l'abondance de questions qui ne trouvent pas de réponse et un Deus Ex Machina pas très inspiré, ça donne une presse pas très jojo envers le bébé de James Cameron. On a le droit tout de même à des effets spéciaux saisissants et très en avance technologiquement, notamment en ce qui concerne la modélisation des colonnes d'eau intelligentes en 3D. Une scène en particulier me marquera pendant des années, la présentation du fluide respiratoire alimenté en oxygène. Et il s'avère que ce procédé n'est pas du cinéma, c'est une technique qui me terrorise, mais qui fonctionne. Mes hommages à ce pauvre rat qui servira de démonstration à l'usage du fluide, une scène qui n'est malheureusement pas truquée. Le rat a bel et bien rempli ses poumons du liquide et survécu pendant plusieurs jours. Croyez-moi, les associations de protection des animaux vont s'en donner à cœur joie. Enfin, on pourra saluer la qualité de la bande-son, œuvre de l'américain Alan Silvestri, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il était aux commandes pour la musique de Retour vers le futur en 85, Predator en 87, et qui veut la peau de Roger Rabbit l'année dernière. On peut dire en gros que l'on a affaire à un des plus grands compositeurs de la décennie. C'est déjà la moitié de l'épisode, on se retrouve après cette petite page de pub. J'ai une petite soif, pas vous ?
Rien ne résiste à ce bug immense qui vient tout emporter. C'est Coca-Cola. Et si tu danses dans la chaleur du jour, prends le rythme qui monte en toi. Prends un coup et tu comprendras. Hey, sans limite, je t'invite, il faut partager.
T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Tu fais rien. Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
Un mois de plus pour le top 50, est-ce que la lambada est toujours en tête? La réponse est bien entendu oui, vous vous en doutez. Mais on se retrouve le mois prochain pour savoir si le tube de l'été sera détrôné. Mais avant, revenons sur les entrées qui ont marqué le mois de septembre. Dépêche Mode revient avec un single qui fera un carton interplanétaire à n'en point douter, Personal Jesus. Annonçant l'arrivée prochaine d'un nouvel album, Personal Jesus marque un léger changement dans la composition pour le groupe de musique électronique. Il nous propose là un tube presque rock, où la guitare tient une place de premier plan. Fait intéressant, une campagne de pub comprenant la phrase « Your own Personal Jesus » a propulsé le titre en haut des classements des meilleures ventes britanniques. Les publicités étaient accompagnées d'un numéro de téléphone qui diffusait la chanson. Astucieuse la promo. Dans vos oreilles également, Sowing the Seeds of Love de Tears for Fears. Premier single de l'album du même nom, c'est une chanson à message politique qui revient sur la victoire électorale de Margaret Thatcher en Angleterre. On se souvient du groupe pour ses grands succès tels que Mad World en 82, mais surtout Shout en 84, un des tubes les plus marquants de la décennie. On notera que le clip a été réalisé par Jim Blashfield, que l'on avait déjà abordé pour le loufoque Leave Me Alone par Michael Jackson il y a quelques mois. un titre un peu plus confidentiel mais qui se fait une place au top 50, Man Child de Néné Chéri. Second single de son premier album Roar Like Sushi, l'artiste suédoise nous propose là un savant mélange de styles. Après le grand succès du titre Buffalo Stance, elle nous propose un texte dirigé à un homme adulte qui mériterait de mûrir un peu. Le clip vidéo de la chanson fait d'ailleurs sensation, c'est une expérience visuelle étrange avec une caméra qui tangue au rythme des nappes de synthé et qui met à l'honneur la chanteuse entourée de quelques personnages inconnus dans un décor de carte postale. Enfin, avant d'aborder l'album du mois, un titre chanté par deux jumeaux qui transpirent leur décennie par tous les pores, Too Much du groupe Bros, fondé par le manager des Pet Shop Boys. Les frères blondinés Matt Goss et Luke Goss ont connu un premier succès avec When Will I Be Famous en 87. Ils reviennent avec un nouveau titre, dont le clip est réalisé par Colin Chilvers, l'homme aux commandes du Smooth Criminal de Michael Jackson. Comme quoi bosser pour Michael, ça ramène des contrats.
Que l'on puisse dire de Bonjoui, le groupe de John Bonjoui précisément, c'est que c'est un groupe précisément encore où il se passe toujours quelque chose, un peu comme à la Samaritaine. D'abord leurs deux derniers albums qui se sont vendus chacun à 7 millions d'exemplaires aux États-Unis, ensuite le mariage secret de John Bonjoui qui a brisé le cœur de milliers d'Américaines, et puis le concubinage de Richie Sambora, le guitariste, avec Cher, la comédienne chanteuse pour laquelle il compose, et enfin la récente inculpation de Doc McGee, le manager pour trafic de drogue. Tout ça étant, j'en reviens moins rigolo que la vie quotidienne de Guns N' Roses, dont nous vous reparlerons bientôt, mais propre à faire un sujet très respectable de Rapido. Bonjoui.
Et on repart dans le rock'n'roll pour l'album du mois, Dr. Feelgood de Motley Crue. Retour aux sources pour le groupe américain, ce cinquième album s'inscrit dans la continuité de Girls, 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 sorti en 87, avec des riffs très typés hard rock. Le groupe, originaire de Los Angeles, s'est rendu célèbre après avoir assuré les premières parties d'Iron Maiden ou encore Kiss en début de carrière. Il se compose de Nikki Sixx à la basse, Tommy Lee à la batterie, Mick Mars à la guitare et Vince Neil au chant. Ce dernier a eu des gros ennuis il y a quelques années puisqu'il a échappé de peu à un accident de voiture alors qu'il était au volant dans un état d'ébriété conséquent. Malheureusement, son passager, le batteur du groupe Hanoi Rocks, n'aura pas cette chance et ne s'en tirera pas vivant. Vince Neil sera contraint après cet événement à un bref passage en prison, une lourde amende et une cure de désintoxication. Le bassiste Nikki Sixx aura quant à lui manqué de décéder d'une overdose d'héroïne à la fin de la tournée de 87. C'est lors d'une de ses tentatives pour reprendre un rythme de vie plus sain que Motley Crue viendra à composer cet album. Les membres étant célèbres dans l'industrie pour leur hygiène de vie chaotique, on peut imaginer ce que ça représente pour le groupe. Leur nouveau producteur Bob Rock aura d'ailleurs énormément de mal à travailler avec les différents membres, à cran à cause de leur sobriété forcée, et prêt à se sauter à la gorge à la moindre occasion. Il finira par leur faire enregistrer leurs différentes parties séparément pour se faciliter la tâche. L'album parle de sexe, comme la plupart des paroles de groupe de glam, cela va sans dire, mais il parle également de drogue, on s'en serait douté, comme en témoigne le single Dr. Feelgood, une chanson diablement efficace qui a le potentiel de se hisser au rang des meilleurs tubes de hard rock de tous les temps. Mais le glam, c'est également la romance, comme en témoigne le titre Without You, dont le texte s'inspire de la relation entre le batteur Tommy Lee et son épouse Heather Locklear, oui oui, la star de Dynasty, avec qui il est marié depuis 86. On notera la présence de beau monde pour quelques chœurs, comme Bryan Adams, Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, ou encore Sebastian Bach, le leader de Skid Row. Les critiques sont assez positives sur l'album, on remarque le regain d'énergie du groupe qui emmène les auditeurs dans un monde de fêtes qui ne s'arrête jamais, une ambiance de décadence fun et entraînante. Et quoi de mieux que le titre Dr. Feelgood pour illustrer tout ça?
un bal. Moi, je sais pas, moi, je danserais bien. Une chanson langoureuse avec un prince charmant.
Charmant, ouais, ouais, ouais. On est là,
moi,
on est là.
Moi, je sais pas, mais j'imagine grand. Prince. Beau, intelligent.
Ah, bah, beau et intelligent.
M'accorderais-tu cette danse, Ariane?
Ben, ouais.
Ce matin, c'est l'épisode Le canon à laser du dessin animé Mobile Armored Strike Command. Je veux bien sûr parler de Mask. C'est une production franco-américaine créée par Bernard Derriès, Bruno Bianchi et bien sûr Jean Chalopin, puisque c'est une énième production de la DIC. Bernard Derriès est un coutumier du fait, puisqu'il a participé à la réalisation d'Ulysse 31, Les Mini-Pousses, Jace ou encore Les Entrechats. Bruno Bianchi, quant à lui, n'est autre que le créateur de l'Inspecteur Gadget, rien que ça. Mais revenons-en à nos moutons. Mask est une série de 75 épisodes diffusée depuis 86 sur TF1 et que vous pouvez retrouver en ce moment dans Club Dorothée. On y raconte l'histoire de Matt Tracker, un multimillionnaire qui découvre l'existence d'une organisation criminelle du nom de Venom, ou Vicious Evil Network of Mayhem, que l'on peut traduire par réseau de fauteurs de troubles vicieux et maléfiques, qui, et vous serez très surpris de l'apprendre, n'est pas très bien intentionné. Il viendra à créer l'organisation Mask, le commando blindé de choc, avec un K pour écrire commando, pour détruire Venom et leur chef, Miles Mayhem, qui, non content d'avoir un nom de famille qui veut dire chaos, est le vilain responsable de la mort du papa de Matt Tracker. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle Venom le réseau mauvais et diabolique de Mayhem, mais je préfère ma version. Ils s'affronteront avec des véhicules transformables et leurs masques qui leur donnent des capacités surhumaines. Alors que la première saison se focalise sur les batailles entre les deux organisations secrètes au travers de leur technologie de pointe, la seconde part sur complètement autre chose. Elle est centrée sur des courses de véhicules entre les deux organisations, où Venom sera bien entendu pas très fair-play. On en a parlé pour Jace et c'est la même chose pour Mask. Le dessin animé est une publicité déguisée pour une marque de jouets que la marque Kenner souhaitait positionner comme un mélange de Transformers et de G.I. Joe. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que les origines de la série sont décrites dans des petites bandes dessinées qui accompagnent les différents jouets de la gamme. Nous avons toujours les coupables habituels à la bande-son, Chucky Levy et Haïm Saban, mais au thème principal, il s'agit d'un duo entre Nick Carr, le chanteur énergique de Jace et les Conquérants de la Lumière, avec Noam, un chanteur israélien que l'on a déjà entendu en 78 pour le second générique de Goldorak qui le fera connaître. Il aura l'occasion de chanter les génériques d'autres dessins animés comme Les Entrechats, Les Popples ou le générique anglais des Mystérieuses Cités d'Or, mais également de séries télé comme Shérif Fais-moi Peur. Il aura eu tout de même une longue carrière en Israël, repéré en 72 par Mike Brandt alors qu'il était enfant, il aura produit une dizaine d'albums sur 10 ans avant d'envahir vos programmes jeunesse. Le voici sur le générique de Mask.
Ils iront en mission.
Ce matin également, vous avez probablement eu l'occasion de tomber sur Candy. Oui, le dessin animé pour les filles dont vous attendez la fin pour voir les voitures robots qui se tapent dessus. On va revenir dessus un peu plus en détail, mais après ça, vous aurez probablement envie de vous plonger dans cet animé qui n'est pas tout le temps rose. Candy est une adaptation d'un manga japonais appelé Candy Candy, qui est lui-même l'adaptation d'un roman en prose écrit par Kyoko Mizuki en 75, Keiko Nagita sous son vrai nom. L'adaptation manga en 9 volumes est l'œuvre de Yumiko Igarashi en collaboration avec Kyoko Mizuki. Il nous présente là l'exemple parfait du shoujo, un sous-genre de manga qui s'adresse littéralement aux jeunes filles, en opposition aux shonen, orientés jeunes garçons comme par exemple les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball. Le dessin animé est diffusé depuis 78, initialement dans Récréa 2 pour un total de 115 épisodes répartis sur 7 saisons. Il a été diffusé au Japon sur TV Asahi en 76 sous un format de soap opéra, où chaque épisode reprenait là où le précédent s'était arrêté. On y suit la vie d'une fille appelée Candice Neige, surnommée Candy, de ses premières années dans un orphelinat au début du XXe siècle jusqu'à la fin de son adolescence, une vie chargée de drames et de retournements de situation pour la jeune fille aux taches de rousseur qui a un véritable air de princesse avec ses yeux verts émeraudes et ses longs cheveux blonds. L'histoire commence dans cet orphelinat où Candy est abandonnée avec Annie, la petite brune avec qui elle grandira et deviendra inséparable. Quelques années plus tard, la famille Brighton viendra adopter Annie. Candy, désespérée de perdre sa meilleure amie, part en courant et éclate en sanglots. C'est là qu'un homme en tenue écossaise, qu'elle surnommera le prince de la colline, lui remonte le moral. Elle ne cessera de chercher à retrouver cette personne pendant tout le déroulé du dessin animé, au travers des déboires de sa vie, de ses relations amoureuses et sur fond d'événements historiques, comme la Première Guerre mondiale sur la fin de la série. La version française comporte quelques incohérences, comme on en a l'habitude avec les adaptations de dessins animés japonais. Les noms des personnages ont été francisés, mais cette fois pas à partir du japonais, mais de l'anglais, puisque l'histoire se passe en Angleterre. Ainsi, Candice n'est plus White mais Neige, Ligan devient Le Grand et Neil devient Daniel, une logique qui vient à se perdre au fil des épisodes où certains personnages viennent à reprendre leur nom d'origine. Il y a déjà 4 moyens métrages d'animation sortis entre 77 et 78, mais il existe également une adaptation en film live datant de 81, réalisée pour le cinéma coréen par In-Young Choi. Pour des raisons de droit, il n'aura malheureusement jamais quitté le marché du home vidéo coréen. La musique de l'anime est composée par Takeo Watanabe, un spécialiste des bandes sont tristes et sentimentales, mais on l'a également entendu sur des œuvres un tantinet plus énergiques, comme Cutie Oni ou encore Mobile Suit Gundam. On va bien sûr écouter le générique de l'anime, mais pas celui que vous imaginez. Au pays de Candy, le premier auquel on pourrait faire référence, est une adaptation directe du générique original japonais, interprété par Dominique Poulain, une voix que vous connaissez également parmi les choristes de Claude François, mais aussi à la voix parlée et chantée de Cendrillon dans le film d'animation Disney. Le générique que l'on entend en ce moment est interprété par Dorothée depuis sa rediffusion sur TF1 à partir de 87. C'est la chanson de Candy, et on s'écoute ça tout de suite.
Candy, Candy, une jolie petite fille aux yeux clairs. Candy, Candy, une frimousse qu'un grand sourire éclair. Candy, une amie qu'on aime à retrouver dans son pays, le pays de Candy. Avec elle on attend le soir quand la nuit se fait câline, pour avoir la chance de voir le gentil prince des collines. Candy, Candy, tu attends du soleil dans les yeux. Candy, il éclaire tous tes jours malheureux. Candy, Candy, tes soupirs et tes éclats de rire donnent la vie au pays de Candy. Quand parfois la vie n'est pas tendre, une larme vient couler, mais tu sais qu'il suffit d'attendre et tout finit par s'arranger. Une vie de bonheur, mais tu sais bien que tu seras à jamais dans notre cœur. Candy, Candy, tu resteras toujours notre ami. Candy, Candy, nous rêverons toute notre vie. Jolie Candy, chance, nous aussi, de découvrir le pays de Candy. Le pays de Candy. Le pays de Candy.
Il n'y aura pas de dernier journal ce soir, en raison de la grève, bien sûr. C'est donc après cette émission de jazz que se terminera notre programme. Bonne soirée.
Et c'est déjà la fin de l'épisode. Il va vous falloir retourner à votre quotidien scolaire ou professionnel, mais avant ça, voici un bref résumé du programme du jour. Alors qu'on attend le retour à la télévision de Dynasty d'ici quelques semaines sur M6, ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure au sujet d'Heather Locklear, on a droit depuis samedi dernier à une toute nouvelle émission qui a fait ses débuts sur TF1, Surprise Surprise, présentée par Marcel Béliveau. Une émission qui nous promet des caméras cachées folles, avec les moyens d'une super production hollywoodienne, on a hâte de voir si ça va marcher. Pour aujourd'hui, il n'y aura bien que TF1 qui proposera un programme à peu près intéressant. Dès 7h10, on retrouvera Robostory, Le Piaf, Rahan et Tintin, dans Avant l'école, alors que sur la 2, ce sera Télématin et Matin Bonheur jusque midi. Autant rester sur la première chaîne pour Géopardie avec Philippe Risoli pour l'apéro, histoire de se mettre bien en jambe pour l'après-midi avec un inédit des Feux de l'amour, où Lorraine découvrira qu'elle a un enfant, puis la chance aux chansons avec Annie Cordy à 15h55 pour bien finir la sieste. On se réveillera pour le Club Dorothée, puis Hawaii Police d'État à 17h45, avant de larmoyer devant Avis de Recherche avec Roger Hanin, puis rigoler devant le Bébé de Chou à 19h55. Ce soir, vous aurez le choix, pour une fois. À part le Grand Échiquier sur Antenne 2, ce sera Peur sur la ville d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Just Gigolo en deuxième partie de soirée sur M6 avec David Bowie et Marlène Dietrich, ou encore Quand les aigles attaquent avec Clint Eastwood sur FR3. Mais ça, c'est pour la plèbe. Après Nulle part ailleurs avec Alain Souchon, les abonnés de Canal+ auront droit à Top Gun, le blockbuster américain d'aviateur à lunettes cool de Tony Scott, où l'on retrouve Tom Cruise, Kelly McGillis et Val Kilmer. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose a changé pour celui-là. Un sentiment comme ça. C'est étrange, hein ? Je vous retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouvel épisode, et toujours plus d'actu culture pop de cette fin d'année 89. Et qui sait, si quelqu'un tombe là-dessus dans 30 ans, il aura peut-être envie de le partager à ses potes, ce serait marrant. Allez, salut !
J'ai tué ton père.
Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs.
Super sympa.
Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite. Et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vendredi soir sur deux, dès 21h sur Radio Kawa.
C'est complètement nawak.
Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père.
Il est quelle heure ?
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'animé, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.